pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Le personnage apparaît à la fin du XIIe siècle sous les traits d'un renard encore nommé Goupil. Ses exploits sont multiples, pleins de malice et de ruse. Toujours prêt à une nouvelle fourberie, le fripon commet de menus larcins, il dérobe un jambon, se régale de harengs frais, avant de s'enfuir avec trois anguilles en collier. S'il le juge nécessaire, il ne manque pas de tourner ses victimes en dérision. Il incarne la ruse intelligente et il trompe son monde pour préserver sa liberté. Ses tours et ses détours ridiculisent les grands, les riches, les puissants, les sots. Il se moque des principes et des règlements et ne mise que sur la vie et la réalité. En multipliant ses exploits, Renard ne manque pas de se faire accuser auprès de Noble le Lion qui réunit une cour plénière pour le juger. Mais Noble le Lion désire avant tout la paix et il incline à l'indulgence. Les méfaits de Renard ne sont pas si grands qu'il mériterait une si grande peine. Renard poursuit donc ainsi ses larcins et fourberies dans la campagne. Il est le bon diable, un personnage complexe et polymorphe, croisé de bandits et de bouffons, redresseur de petits torts et voleur de moyens chemins. Aujourd'hui dans les pieds sur terre, il s'appelle Topette et il vivait au XXIe siècle, il y a encore quelques années, en Champagne. C'est son histoire que vous raconte aujourd'hui Delphine Dilly, qu'il a connue personnellement.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
L'histoire se passe dans un canton de l'Aube, en Champagne-Ardenne. Mais ici, il n'y a pas de champagne, plutôt des champs de maïs, de betteraves et de pommes de terre à perte de vue. Ici, c'est chez moi, la campagne où j'ai grandi, là où je suis allée à l'école et où j'ai parcouru des kilomètres à vélo pour aller voir mes copains. Aujourd'hui, je reprends mon vélo et je pars à Nogent-sur-Aube, où le café vient de réouvrir au grand soulagement de ses habitants.
Bonjour.
C'est dans ce coin qu'habitait et sévissait Topette, la menace du canton. C'est là que je vais d'abord pour qu'on me raconte son histoire.
Attends, je vais prendre une lèvre comme ça, moi.
Une lèvre ? Ouais. Moi, je vais prendre un café allongé, s'il vous plaît.
Oui.
Je cherche des histoires sur Topette.
Topette ?
Ouais.
Topette.
Voilà.
Ah, le phénomène.
Ah, mais le Topette.
Tu connais bien, toi, Daniel ? Allez, vas-y, Daniel.
Moi, ouais, je connais depuis que je suis tout petit. Bon, moi, c'est toujours un personnage marginal. Et puis, qui travaillait à une certaine époque. Et puis... qui a décidé d'arrêter de travailler un jour et puis de vivre en marge de la société. Et puis de...
C'était comment son prénom ? Claude, c'est ça.
Hein ? Ouais.
Personne ne l'aimait. Isolé, seul. Il s'est vengé de certaines personnes, de son enfance malheureuse, de son physique. On se moquait de lui et il a versé dans la vengeance, pour faire chier le monde, c'est tout.
Ouais, on a des histoires sur Topette, il y en a des centaines, quoi. À chaque fois qu'il était arrêté dans le quartier, sur les journaux, c'était encore une affaire marmillon, quoi. Pour lui, je crois que c'était devenu un rythme. À la fin, il allait faire son petit stage de 6 mois, 1 an en prison, et puis il revenait, quoi.
Pour moi, Topette a toujours été un mythe. J'entends parler de lui depuis que je suis gamine. Mais si dans le coin tout le monde connaît son nom, une anecdote ou la croisée au détour d'un chemin, Topette intrigue, c'est parce qu'il divise.
Toutes ses affaires, il les faisait en vélo. Il ramenait toutes les affaires dans les sacoches de vélo. Et il se promenait la nuit avec les pieds électriques. S'il entendait une voiture, il s'allongeait dans le fossé, il s'aplatissait dans le fossé. Et moi, ça m'a déjà arrivé de voir... C'est pas un truc qui brille dans le fossé, c'était Claude Marmillon qui était aplati dans le fossé, quoi. Il avait une échelle pour grimper sur les murs, une échelle avec de la mousse derrière le montant de l'échelle, quoi. Donc ça faisait pas de bruit, il pouvait monter sur un mur, passer à un mur d'une maison. Voilà, il était assez doué pour pas trop faire de dégâts pour rentrer chez quelqu'un. Il prenait du linge, de l'alcool à la fin. Moi, je sais qu'à un moment, il a pris sur le linge, hein, pour embêter les gens, une chaussette sur deux, voilà. Donc, des fois, des paris matchs, des revues de paris matchs, des tas d'habits, des draps, des... Voilà, histoire de prendre quelque chose. Une fois, il a pris... on fait du fond de veau maison. Et donc, mon père avait récupéré le jus du fond de veau, mais il a mis les os et la casserole dehors. Il a volé les os et la casserole. Pourtant, c'est que des os qui n'y a quasi rien à manger dessus, mais il avait volé les os et la casserole. Voilà. Les gendarmes étaient très sympas avec lui, ou même quand il l'emmenait en garde à vue pour prendre sa déposition... Il lui mettait même pas les menottes, il montait directement dans l'estafette. Il reconnaissait les faits et soit il allait au tribunal ou soit il revenait. Mais vu que Claude Mermillon n'avait pas le permis pour aller au tribunal, il y allait en taxi des fois. Et il se faisait rembourser par le tribunal les frais. Donc il n'était pas si bête que ça.
Il savait très bien travailler. Il avait trois CAP, un CAP de fraiseur, tourneur, soudeur et puis chaudronnier, je crois. Claude avait de l'or dans les mains. On lui demandait quelque chose, il le faisait. Je vais voir si je peux le faire, je le fais. Je l'ai vu fabriquer des voitures, un buggy, dans sa grange. Formidable, formidable.
Il aurait très bien pu lui-même avoir une entreprise, quoi. J'en suis persuadé, quoi. Mais j'ai jamais voulu rentrer dans le système de la société, quoi.
Mon père me dépose chez Régis. J'apprends que Régis a fait l'électricité de mon ancienne maison, mais aussi de la porcherie. Régis s'appelle Topette, mon petit Claude, car ils ont grandi dans le même village de 40 habitants. Et dans la véranda où il m'accueille, les histoires fusent.
Il n'était pas d'un fond méchant, parce qu'une fois, j'ai démonté mon grillage de clôture pour refaire un plus haut. Et j'avais donné 25 mètres de grillage. Oh, il me dit, c'est bien, ça m'évitera que les voleurs viennent me voler. C'est rigolo, hein. Alors, j'ai rien dit. Mais trois jours après, j'avais un paquet de bonbons sur la boîte aux lettres pour mes enfants. Et une fois, il m'a ramené un kilo de noisettes qu'il a ramassé chez lui pour mes enfants, parce que j'avais donné des grillages. Tu m'as donné quelque chose, je te donne quelque chose dans les champs. On est quitte. Mais je viendrai quand même chez toi si j'ai envie. Alors, une fois, j'avais beaucoup de bois de stockage derrière que je me chauffais au bois. Et je suis aperçu par la neige qu'il venait au bois. Alors, j'étais voir mon petit marmillon, Claude, dit Topette. Je lui ai dit, je vais te couvrir le bois, qu'il soit sec, pour que tu puisses avoir du bois sec au moins, que d'avoir du bois humide. Du coup, il venait plus.
Pourquoi?
Et pourtant, je sais pas pourquoi. Et pourtant, j'ai dit, tu viendras pas la nuit, tu viens la journée, j'ai pas envie de t'arracher dans la nuit, venir chez moi, dans ma propriété, me prendre du bois. Je préfère t'en donner 5-6 mètres pour l'hiver que de venir me voler. Je te le donne, je vais te couvrir. Et j'ai couvert avec une vague, et depuis, il est jamais revenu. Car tu m'envoies. C'est rigolo, hein? Ouais, c'est rigolo. C'est que des petits larcins. Par contre, une fois, il était parti au sport d'hiver. J'ai mon frère qui gardait la maison. Il venait ouvrir le matin, fermer le soir. Puis quand je suis rentré, j'ouvre la maison, en rentrant des sports d'hiver, j'ai quand même mon frangin, il aurait pu se déchausser, il est dégueulasse, quand même, il aurait pu s'essuyer les pieds, mais quand ma femme, elle est arrivée vers l'escalier, on a été cambriolé. Il est venu fracturer la baie vitrée d'un véranda, il a été dans le frigo, il a bu l'apéro, il a laissé le frigo ouvert, il a ouvert le congélateur en bas, il l'a laissé ouvert pour dire, ah mais c'est que ça, et il a été défaire mon lit. Et en plus, il a tout culbuté dans l'escalier, l'apéro et tout.
Mais il a quand même fracturé cette fenêtre-là et puis il a déhanché tous les caoutchoucs de la véranda. Hein.
Oui, mais c'était pas méchant.
Et le congélateur en bas, il n'en avait rien à fiche. Hein.
Il voulait rentrer, voilà.
Aussi.
Alors, donc, après, j'ai fait venir les gendarmes. Bon, il a reconnu que c'était lui, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on y fasse?
C'était fait, parce qu'on portait plainte contre lui, puis c'était tout. Hein. Puis on a quand même été au tribunal une fois.
Oui.
Hein. Mais bon, ça n'a pas donné grand-chose. Enfin, les assurances nous ont remboursé ici un matelas, tout ça.
Oui, c'est vrai, mais bon, c'est tout.
Et tout le congélateur qui avait volé. Hein. Il ne volait pas d'argent.
Il ne volait pas d'argent, de toute façon. Oh.
À part la mergute qui a eu l'argent de voler, mais c'est pas lui, c'était lui.
Oui, hein. Parce qu'on y en a vu beaucoup sur son dos, qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est pas lui qui l'a fait. Hein.
Plus
ouais, parce que lui,
parce qu'il
était comme dans un rayon de 7-8 km, hein. Il n'allait pas plus loin, de toute façon. Ils étaient au moins 9 enfants, hein. Je ne sais plus, mais plus de toi. Au moins 9 enfants, ouais, ouais, voilà. C'était le dernier. Hein.
T'as été à l'école avec lui, non?
Hein?
T'as été à l'école avec lui?
Bah, nous, c'est bon, l'école dans le temps primaire, c'est qu'il y avait les grands, les petits mélangés à l'école. Et donc, il était à l'école avec
toi.
Parce
qu'il était plus vieux que toi, quand même.
Oui, l'âge à mon frère. C'est camarade de combien, mon frère?
À son frère.
À
Guy, oui. C'est pour ça, c'est rigolo.
De combien?
Claude, je l'ai connu Claude tout petit. Parce que mes parents avaient une ferme en haut, et puis donc mon père, eux, ils avaient un petit peu de terre, ils n'avaient plus de ferme, ils étaient en retraite, et mon père entretenait leur champ. Une fois, sa mère avait traité mon père de gros mots, et mon papa, il avait dit à Claude, tu diras à ta maman, cette année, je ne couperai pas son champ de blé. Et du coup, il était venu faire un larcin après un matériel agricole, à l'âge de 14 ans. Et déjà là, il était passé au tribunal des mineurs, des enfants. Et tout petit, nous, on allait jouer chez eux au jeu. Quand on rendait les jeux, on regardait, à chaque fois, il nous manquait déjà une petite pièce. C'est des petits larcins comme ça.
Avant, il travaillait chez lui, qu'il avait une voiture et tout ça au début. Hein.
Ah oui, il avait le permis, oui. Oui,
ah façon, oui, il avait le permis, il avait tout, hein, il était super bien.
Et puis, il aimait bien les voitures de sport, parce qu'il avait des voitures dans ce temps-là, c'était les R8 Gordini, trucs comme ça. Et voilà, c'est vrai que.
Je sais pas pourquoi qu'il est devenu comme ça. Il avait une belle voiture orange, je me rappelle. Hein. Ouais. Quand il passait, il nous klaxonnait en plus.
Ah, mais c'était un bon gamin.
Mais pourquoi qu'il est devenu comme ça, je sais pas.
De toute façon, sa mère, elle a eu l'instinct. Sa mère, elle volait aussi, sa mère. Elle volait. Hein. Elle volait. Elle buvait, elle volait. Et on est des gamins à hériter de sa mère. Voilà, sûr, de toute façon. Certains, je pense. C'est ça. Mais bon, c'est son caractère comme ça, c'est tout, c'est son caractère. Hein. Voilà.
Mais une fois, quand il est sorti de prison, sa sœur, elle a voulu le prendre pendant 15 jours chez lui, et il n'a pas voulu, il faisait que des bêtises.
Non, parce qu'il n'avait pas sa liberté qu'il avait le soir, la nuit, pour se balader. Voilà, c'est ça. Parce qu'il avait sa petite liberté, lui. Voilà. Ah. Et puis, il a été enfermé à la prison.
À Villeneuve.
Non, mais à Troyes, il était. Oui. Et là, il était très connu, parce que lui, arrivé à la prison, il s'occupait de tout. Il ouvrait les portes, il avait une confiance en lui, il travaillait, il bricolait, il tournait le gazon, il faisait tout.
France Culture, les pieds sur terre.
Sur le casier judiciaire de Claude Marmillon, alias Topette, il y aurait quand même eu près de 47 condamnations, sachant qu'il fallait près de 6 ou 7 plaintes pour qu'il aille au tribunal. Et tout ça dans un rayon de 8 km. Je vais voir Jean-Paul Aramru. Jean-Paul est agriculteur.
Tout ça, c'est à vous?
Oui, oui. Céréales, betteraves, voilà, le maïs. Un jour, je le vois qui attendait le boulanger, parce que le boulanger, dans les campagnes, il passe avec la petite camionnette. Voilà. Et donc, je me dis, s'il attend le boulanger, c'est qu'il a de l'argent, quoi. Et puis, donc, j'arrive, j'arrête mon tracteur, je descends une fois de plus, et je le menace une fois de plus. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, j'ai dit, je veux que tu me rendes mon pognon. Et là, il avait une petite sacoche, et il ouvrait sa sacoche, il me dit, bah, écoute, Jean-Paul, prends ce que tu veux. En me montrant sa sacoche avec un peu d'argent qu'il avait dedans. Et j'ai dit, non, je veux pas, c'est pas comme ça. Je veux que tu me rendes et que tu avoues surtout que tu m'as pris de l'argent, quoi. Et tu m'as pris 300 euros. Donc, de toute façon, là, tu as besoin d'acheter ton pain, t'achètes ton pain, mais moi, c'est mes 300 euros que je veux carrément. Ouais, t'exagères quand même. Et j'ai dit, pourquoi? Et il me dit, parce que c'est pas 300 euros que je t'ai volé, c'est 200 euros. Ah, ben j'ai dit, donc t'es en train d'avouer, là. Il me dit, ouais, bah, de toute manière, t'avais qu'à pas laisser ta fenêtre ouverte, c'est jamais fermé chez toi. J'ai dit, mais c'est pas pour autant qu'il faut que t'ailles traîner dans toutes les maisons de l'un et de l'autre, tu forces les propriétés privées, apparemment ça te dérange pas. Ah ben non, ça me gêne pas du tout. Au contraire, c'est mon plaisir. C'est là qu'il me raconte qu'en fait, toutes les nuits, il est sorti et en fait, il connaît toutes les maisons de tous les villages. Il me dit, t'imagines même pas jusqu'où je vais. Il me dit, je vais jusqu'à Troyes, je connais toutes les maisons. Je vais derrière, partout, je sais tout. Donc, j'ai dit, mais de toute façon, c'est tout. Moi, t'as avoué maintenant. Tu passeras devant le tribunal et bien tu me raconteras ça et tout. Et là, quand il est passé devant le juge, il dit de toute façon, si je suis la nuit dans les petits villages ici, c'est parce que je protège les villageois quelque sorte. Parce que si c'était pas moi, il disait, ce serait les manouches. Et vous verrez, quand je serai plus là, les manouches, ce sera autre chose. Et la juge, bon, elle souriait quoi. Hein, mais toujours est-il que c'était son argument. Et quelque part, c'est vrai que ça agrémentait au moins les conversations. On en parlait forcément au conseil municipal. Il avait même été une fois condamné à des travaux d'intérêt communaux, quoi. Moi, j'avais dit, s'il est condamné à ce genre de travaux, on va lui faire faire quelque chose. Bon, et là, c'était le tollé dans le conseil municipal en disant, mais ça va pas, non, mais c'est pas, on va pas s'amuser encore à s'occuper de lui, à le faire travailler, ou je sais pas, il le fera jamais de toute façon. Donc je me rappelle que mon père, qui était maire à l'époque, je me suis engueulé avec mon père, et il avait quitté la table du conseil municipal en disant, mais on va pas s'amuser à faire ce genre d'application de peine, c'est ridicule. Voilà, donc en fait, on faisait du social, on en parlait, hein, tout le monde avait essayé un peu de trouver des solutions, mais ces solutions-là, il les refusait. Il me semble qu'il avait refusé le RMI en disant, j'ai pas besoin de ça et tout, je me démerde tout seul. À chaque fois, même les gendarmes reconnaissaient qu'il avait quand même de l'ingéniosité. Il avait des méthodes. Moi, je sais que chez moi, quand il était venu, j'ai retrouvé dans la cour un outil qu'il avait fabriqué dans mon propre atelier. C'était une antenne de transistor qui ne marchait plus, qui devait être dans mon atelier. Et il avait arraché l'antenne et découpé, usiné en forme d'équerre. Il voulait absolument rentrer dans ma grange qui était à côté de l'atelier. Et j'ai vu qu'effectivement, l'antenne, on pouvait l'entrer dans la clé, à travers la serrure. On arrivait à tourner cette antenne et à donc ouvrir la porte. Et il était aussi capable de refermer. Hein. Mon père s'était rendu compte qu'il était venu parce qu'il manquait des choses dans le congélateur. Par contre, rien n'avait l'air d'être forcé. Et en fait, on a su après qu'il était rentré par la fenêtre, mais il l'avait refermé. Et il avait su rentrer dans le congélateur, piquer des trucs dans le congélateur. Mon père avait trouvé une solution, il avait mis une chaîne autour du congélateur, c'est un congélateur vertical. Il s'est dit, bon, on est tranquille, il ne pourra pas l'ouvrir. Puis je verrai bien s'il a coupé la chaîne. Bon. Et il manquait des choses dans le congélateur et la chaîne était toujours là. Et donc on était là, plusieurs, à regarder ce truc, comment il avait bien pu faire pour ouvrir le congélateur sans enlever la chaîne. Je suis revenu un quart d'heure après, je dis, c'est pas possible quand même, je reviens. Et là, franchement, on n'était pas admiratif du personnage, mais bon, on reconnaissait, voilà, qu'il manquait pas d'ingéniosité. Alors c'est pareil, moi il m'avait volé du matériel agricole, mais pas le matériel en entier. Dès qu'il voyait qu'on abandonnait un peu un outil qui servait plus depuis longtemps aux orties, il faisait en sorte qu'on voit pas où il passe. Donc il passait par derrière dans les broussailles et ensuite il se faisait un petit chemin pour accéder à l'outil agricole abandonné et il démontait progressivement une des pièces pour qu'on s'en aperçoive jamais. Et il revendait ça au ferrailleur du coin qui passait pour 3 francs 6 sous. Hein. Et on s'en apercevait, mais longtemps plus tard. C'est vrai que si cet outil, on s'en sert qu'une fois dans l'année, on pouvait être un an avant de réaliser qu'il nous manquait des pièces. Et au moment d'atteler, de tirer l'outil, qu'il s'effondre, l'outil, bah oui, parce que il a tout piqué dessus. Parce que sa méthode, c'était de prendre, de cacher, et d'attendre, de voir si on portait plainte. Et au bout de 6 mois, donc, il ressortait l'outil, il l'amenait dans l'atelier. Donc des fois, quand je savais qu'il me manquait un outil, je me suis dit, je vais attendre un peu, parce que de toute façon, je sais qu'il a planqué l'outil. Et on le trouvait dans les champs, il allait planquer ça au pas loin. Hein. Des fois, à 100 mètres dans un champ de blé, ça suffit pour planquer quelque chose. Hein. Bon, là, on se méfiait, parce que des fois, ça passait dans la moissonneuse-batteuse, et on est tombé en panne des fois avec ça, parce que c'était un bout de ferraille important, et donc, tac, ça repassait dans la moissonneuse, et on calait la machine, quoi. Voilà, après, on connaissait un peu ses habitudes, ses passages, ses sentiers. On voyait bien ses sentiers bien piétinés tout le temps. Mais moi, je sais que je l'ai plus ou moins senti là, à quelques mètres derrière la haie, mais tellement silencieux que, effectivement, j'ai jamais pu le choper, quoi. Ouais, ouais, un peu la méthode du renard, quoi. Ouais.
Bonjour madame.
Ça va ?
Et puis en dernier, je me devais d'aller à la boulangerie, rencontrer Delphine.
Depuis toute petite, on entend parler de Topette. De toute façon, ça a toujours été la risée des villages. Topette, et quand on est gamine, on a peur, forcément. D'entendre des topettes par-ci, topettes par-là, donc on a forcément peur. Et puis après, en grandissant, on apprend à le connaître. Il était donc client à la boulangerie et venait régulièrement, toujours très courtois, très poli. Bon, il nous faisait rire parce que on savait d'avance ce qu'il allait faire ou ce qu'il allait dire, parce qu'il jouait quand même un peu les donjons. Hein. Il était assez fier de sa personne. Hein. Alors, il disait souvent « Bonjour, messieurs-là, mais fort !» Donc, forcément, quand on nous parle fort, les gens sont obligés de répondre. Et je pense que ça, il faisait exprès. Et toujours, messieurs-dames, jamais bonjour tout seul. Donc, ça voulait dire qu'il était quelqu'un et qu'il aurait certainement aimé qu'on lui réponde bonjour, monsieur. Comme son surnom de Topette, on n'a jamais su pourquoi on l'avait appelé comme ça. D'ailleurs, il avait du mal à supporter qu'on l'appelle comme ça parce que je sais qu'une fois, et c'est arrivé qu'on lui a dit bonjour Topette, il a répondu je m'appelle Claude Marmillon. J'ai un nom et un prénom. Il s'amusait à nous faire des petites remarques du genre il ouvrait son sac en me disant je vous laisse vérifier mon sac, vous ne me preniez pas pour un voleur. Voilà. Et lorsqu'il payait, en général, il laissait toujours quelques pièces en me disant gentiment que c'était pour le personnel. Donc j'avais un peu l'impression qu'il se croyait au casino. Mais oui, ouais, c'était quelqu'un quand même. Donc moi, j'ai eu affaire à sa sœur une fois, enfin, de me demander s'il me devait de l'argent et tout ça. Donc il n'en devait pas et elle parlait de son frère vraiment comme quelqu'un de très bien. Il n'était pas méchant. S'il lui était arrivé quelque chose, les gens lui auraient porté secours malgré tout. Même s'il avait fait des bêtises, c'était pas des grosses bêtises. Hein. Bon, il volait du linge sur les fils, il volait dans les congélateurs. Bon. C'est vrai qu'il avait quand même un physique un peu spécial. Donc, c'était peut-être aussi une façon de se venger des gens qui se sont fichus de lui pendant des années. Mais oui, voilà, je pense qu'il cherchait à être respecté. Est-ce que ça l'aurait aidé, peut-être, à ne plus aller chez les gens ? Il aimait embêter les gens et les savoir ennuyer et leur faire peur, afin de montrer que c'était quand même quelqu'un, qu'il existait. On le voyait toujours tout seul, d'ailleurs, il a toujours vécu tout seul, hein, tout seul dans sa maison à Morembert. Il allait en prison, il est allé en prison, hein, Topette. Et apparemment, il s'y plaisait quand même un peu parce qu'il n'était pas tout seul. Il n'était pas seul et oui, il avait chaud, il avait à manger parce que je ne suis pas sûre qu'il mangeait tous les jours à sa faim. À la limite, ça l'aidait peut-être à vivre aussi d'aller de temps en temps en prison. Et puis on lui faisait... il était propre, tout ça aussi. Il vivait comme tout le monde, sauf qu'il était en prison.
Dans l'aube, on dit topé pour chourer, piquer ou se faire attraper. Mais en fait, le surnom de Topette viendrait de la petite fiole de vin qu'enfant, le petit Claude servait aux clients du café improvisé dans la grange de ses parents. Mais ça, les gendarmes ne me l'ont pas confirmé.
Bon, lui, il n'a jamais piqué de bagnole, hein, Marmillon. Hein, lui, il se contentait de son vélo, bien entretenu. Voilà, c'était son choix, je pense, parce qu'il aurait très bien pu, effectivement, piquer une bagnole. C'est cette façon de s'intégrer, de faire partie du village. Piquer une bagnole pour aller où, pour faire quoi, c'est pas faire partie du village, ça. Et je pense que c'est pour ça, quelque part, le vélo devait lui suffire, quoi. Alors, un petit matin, d'abord, on le voyait partir avec son sac vide et revenir avec un sac plein, quoi. Et c'est vrai, quand tu le doublais, que tu le voyais avec son sac plein, tu dis ça y est, il a encore été piqué les trucs. Tu te disais comme ça, je vais lui donner un coup de volant, on va le foutre dans le fossé. Non, en fait, personne ne le faisait. Mais comme il était, il picolait souvent, il tenait pas sur son vélo. Et donc, il avait tendance à prendre toute la route. Il fallait même faire gaffe de ne pas le renverser. Et on pensait qu'un jour ou l'autre, ça finirait comme ça, qu'il serait renversé par une voiture. Donc, ça s'est pas terminé comme ça, hein, puisqu'on l'a retrouvé mort d'une crise cardiaque, en fait. Mais par contre, il y a eu une enquête de la police criminelle, en fait, puisque ça semblait un peu bizarre de le retrouver tombé la tête dans sa brouette, là, en fait. Il se baladait avec sa brouette et on l'a retrouvé à genoux, la tête dans la brouette. Donc, c'était un peu une posture un peu particulière. Mais bon, non, c'est clair que l'autopsie a prouvé que c'était une mort naturelle. Quoi. Il n'avait pas été attaqué, agressé, voilà. Et puis, aujourd'hui, il n'est plus là, Claude Marmillon, puisqu'il est décédé. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de cambriolages, beaucoup plus sérieux que les petites affaires à Claude Marmillon. Et donc, on commence à se demander si, quelque part, effectivement, il n'avait pas... Sa présence faisait que d'autres ne venaient pas. C'est, je sais pas, c'est la guerre de la nuit. C'est pourquoi pas.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et notre retour sur du mardi avec l'histoire de Topette, un reportage de Delphine Dilly, réalisé par Emmanuel Geoffroy et diffusé pour la première fois le 30 septembre 2014. Merci à Aurélien, à Daniel, à Delphine, à Boulangère, à Régis et Régis, à Jean-Paul et à Vincent Abouchard. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui attendent vos réactions, vos partages et vos commentaires avec impatience.